L'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des Tiers-Mondes et de la solidarité internationale.
Aujourd'hui, je suis avec Philippe Lost, que vous connaissez déjà puisqu'il est intervenu sur FM+ au titre d'agronome et vétérinaire sans frontières. Mais aujourd'hui, je l'ai invité pour qu'il nous présente une association qui est en plein renouvellement et qui s'appelle Promata International, une association pour la promotion du matériel moderne en traction animale. Alors, ce Promata existe déjà depuis longtemps, puisque sa création remonte à 1983.
Oui, Madeleine, bonjour. On peut rappeler un peu l'historique de l'affaire, effectivement, car Promata a été créé par un homme du XXe siècle, il est maintenant disparu, Jean Nol, qui était un ingénieur et un inventeur très charismatique et qui a consacré sa vie à essayer d'améliorer la condition paysanne avec une hypothèse de travail pour lui qui était que à chaque fois qu'on peut remplacer du travail manuel par un travail animal, on peut être à la fois plus efficace et évidemment réduire considérablement la pénibilité du travail. Donc ce monsieur Jean Nol a travaillé dans beaucoup de pays du monde et notamment au Sénégal où moi-même j'ai fait ma thèse dans les années 80 et j'ai pu constater, puisque c'était un des sujets sur lesquels je travaillais, qu'il a fait énormément pour améliorer les outils utilisables en traction animale. Au Sénégal, il avait créé toute une série d'outils qui étaient fabriqués par des ateliers nationaux tels que la Houssine, le bâti Ariana, le bâti Arara. Et vers la fin du XXe siècle, comme on l'a rappelé, il a créé dans le sud de la France une association pour la promotion du matériel moderne en traction animale, comme tu l'as rappelé, Madeleine. Et cet atelier avait pour but de fabriquer des outils améliorés pour la traction animale. Alors, ça peut surprendre beaucoup le grand public de se dire qu'une technologie aussi ancienne, puisqu'on sait que les Égyptiens utilisaient déjà des arrères,
oui.
Avec des zébus, il y a de très belles images dans la Vallée des Rois, par exemple, que j'ai reprise d'ailleurs dans un ouvrage que j'ai publié il y a une dizaine d'années sur le sujet, qui montre que cette technologie est très ancienne et que dans beaucoup de pays du monde, en Asie, en Amérique latine, en Afrique, etc., on utilise encore beaucoup d'animaux pour le travail. Mais ce que je constate sur le terrain, que ce soit en Algérie, au Mexique, ou en Bolivie ou au Sénégal, c'est que parfois les outils ne sont pas optimisés pour une utilisation qui facilite réellement le travail du sol pour les paysans. Et donc, ce que fait Promata, c'est de concevoir des outils qui soient pas trop coûteux, qui puissent être faits sur place, réparés sur place, et qui rendent les meilleurs services possibles aux paysans sur le terrain. Et c'est ainsi que mon collègue et ami Jo Balade a conçu un outil qui s'appelle la Cassine, qui dérive d'ailleurs d'un outil qu'avait conçu Jean Nol 30 ans auparavant, qui s'appelait la Houssine, mais cet outil a la particularité d'être un outil polyvalent. Alors, il est extrêmement intéressant pour le paysan, et alors c'est un outil également qui est très léger. C'est-à-dire qu'il peut fonctionner avec un âne, il peut fonctionner avec un mulet, un cheval, ou un bovin, ou plusieurs bovins. Évidemment, si on a deux bovins, on aura une puissance de travail telle qu'on pourra faire un labour plus puissant, plus profond, etc. Si on a un âne, on fera un travail plus superficiel, adapté à la capacité de traction de l'animal. Mais cet outil, ce porte-outil, a le grand avantage d'être polyvalent et de ne pas nécessiter de boulons pour faire la transformation. Car lorsque j'étais sur le terrain dans les années 80, j'ai constaté que les outils dits polyvalents, souvent ne l'étaient pas pour le paysan, parce qu'ils étaient boulonnés, et qu'au moment où on devait, par exemple, remplacer son butoir par des dents de sarclage ou les dents de sarclage par une charrue, puisque c'est ça le principe de la polyvalence. Très souvent, le paysan n'avait pas la possibilité de faire cette transformation rapidement parce que soit il n'avait pas la clé adaptée, soit les écrous pouvaient être rouillés, des choses de cette nature. Et Promatta a conçu un outil de ce point de vue-là tout à fait original et intéressant, sur un principe qu'on appelle le croche-axe, qui est une forme de... Il faudrait évidemment une image pour vous le montrer. Un croche-axe, oui, qui se démonte simplement par un étrier mobile. Ce qui fait qu'on change d'outil en 15 secondes, 20 secondes. Il faut que l'outil soit bien réalisé, bien sûr, et c'est la raison pour laquelle Promatta, lorsque l'on forme des ateliers, par exemple au Burkina, il existe un Promatta Burkina avec des forgerons formés, on insiste énormément, on donne les plans gratuitement, mais moyennant un cahier des charges très précis pour que les outils soient bien réalisés et fonctionnels. Parce que si la fabrication de l'outil dérive avec des aciers de mauvaise qualité, ou pas bien dimensionnés, ou pas bien découpés, etc., on s'aperçoit qu'à ce moment, on perd beaucoup en efficacité.
Alors, tout cet outillage, donc, très important, correspond à des valeurs que l'association veut mettre en avant.
Complètement. Là, on est resté dans l'esprit de Jean Nolle, qui était vraiment un humaniste, qui était très, très engagé, très charismatique dans son engagement aux côtés des paysans les plus démunis, en fait. Et c'est vraiment l'esprit qui reste encore dans Promatta International, qui consiste à dire qu'on travaille pour les paysans du Sud, en majorité, à la demande des paysans du Sud, en partenariat avec leurs propres organisations ou leurs propres associations ou groupements de producteurs, pour répondre au mieux à leurs besoins. Et c'est ce que l'on essaie de développer actuellement dans un certain nombre de pays qui, évidemment, ont des gros besoins dans ce domaine-là, tels que le Mali, Madagascar, la Mauritanie, le Burkina Faso.
Eh oui. Mais il y a aussi, bien sûr, c'est important à souligner en ce moment, que ces pratiques facilitent l'agroécologie et préservent l'environnement. Et également qu'elles facilitent l'autonomie.
Alors, il est très clair que ces outils s'inscrivent dans une démarche qui est celle de la transition agroécologique. Car on constate avec regret que dans certains de ces pays en développement, les formations qui ont été faites des ingénieurs et techniciens étaient dans le cadre d'une agriculture conventionnelle qui faisait un grand appel à la motorisation et aux intrants énergétiques et chimiques. Et très clairement, avec la transition agroécologique, on voudrait remettre en cause complètement la démarche pour des processus de production qui soient beaucoup plus fondés sur la biologie et sur l'écologie des sols et des peuplements végétaux. Et évidemment, l'utilisation de la traction animale s'inscrit complètement dans ce cadre, c'est-à-dire qu'on considère que on peut, grâce aux animaux de trait, réaliser une association de l'agriculture et de l'élevage beaucoup plus efficace et, tout en réduisant la pénibilité du travail humain, participer aussi à une meilleure durabilité des systèmes de production. D'ailleurs, on ne se contente pas d'introduire un outil, mais on accompagne toute une dynamique d'amélioration du système de production lui-même avec une bonne utilisation de l'animal, bien sûr.
Il y a aussi l'idée que coopérer, c'est transmettre, mais c'est aussi recevoir, et que l'innovation se fait toujours à partir des pratiques des paysans eux-mêmes.
C'est très vrai, et c'est intéressant de le rappeler, car Jean Nolle, dans ce qu'il a fait sur le terrain, et on essaie de rester dans cet esprit, est quelqu'un qui était très proche des sociétés agraires avec lesquelles il travaillait, et qui commençait par vraiment bien connaître les gens, les découvrir, travailler avec eux, identifier leurs besoins, et tu l'évoquais, s'inspirer de leur propre savoir-faire. C'est-à-dire que dans certains cas, on peut imaginer, à partir d'une pratique traditionnelle comme le zaï au Burkina Faso, qui était un travail manuel extrêmement lourd, on s'aperçoit que cette pratique est pratiquement nécessaire sur des sols très durs qu'il faut, casser une croûte pour relancer les cultures à l'arrivée des pluies, etc. Eh bien, la logique a été de travailler en traction animale pour un zaï que l'on appelle mécanisé et qui consiste à utiliser maintenant l'animal pour faire un travail qui était très lourd manuellement. Et on a mis au point justement avec la cassine un travail à la dent qui allège beaucoup le travail de ce fameux zaï, mais qui se fait essentiellement maintenant à partir de l'énergie animale, qui peut être l'énergie des ânes, des chevaux ou des bœufs, et qui est complètement fondée sur une pratique traditionnelle. Donc on pourrait aller plus dans le détail si ça intéressait les auditeurs, bien sûr, mais le principe, c'est qu'au lieu de travailler un sol très dur à la main, et on y passe des heures en pleine saison chaude, puisque c'est justement la période la plus chaude qui précède l'arrivée des pluies, on le fait avec des animaux, en faisant un travail à la dent croisée, et la technique d'implantation de la graine, d'apport de compost, etc., est tout à fait la pratique traditionnelle qui est maintenue, simplement avec une aide très importante de l'énergie animale pour soulager le travail humain.
En effet, donc... vous avez apporté une musique, de quoi s'agit-il ?
Oui, alors je pensais à Madagascar puisque j'y ai fait récemment une mission. Et la première musique qu'on peut vous proposer est une musique du groupe Betsimisarak, les Betsimisarak, qui sont c'est une ethnie qui vit sur la côte orientale de Madagascar, vers Mananjar. Et c'est des gens qui sont dans le tropique humide et qui produisent des produits tels que la vanille, les fruits tropicaux et le litchi, etc.
Alors, je rappelle que je suis avec Philippe Lost de l'Association pour la promotion du matériel moderne en traction animale, Promata. Et c'est un Promata international. Vous étiez tout récemment en réunion, justement, de cette association qui se relance.
Effectivement, samedi dernier, nous avions notre Assemblée Générale de Relance à Rimont, qui est un village de l'Ariège, non loin de Saint-Géron, où justement Jean-Noël avait fondé dans un grand bâtiment qui est une gare désaffectée, la gare de Rimont, un atelier où le groupe de Promata France continue de créer des outils et de les améliorer en vue de soulager le travail de ceux qui travaillent encore ou qui se remettent à utiliser des animaux en Europe. Alors, comme vous le savez, c'est un marché qui est relativement étroit, mais ce sont des gens quand même qui travaillent, par exemple, en maraîchage avec des ânes. Il y en a un tout près de Montpellier, et plusieurs même, mais enfin, on en connaît un très bien qui est sur le domaine de Cassagnol, avec des ânes et la fameuse cassine. Et ce marché, évidemment, est intéressant en Europe, notamment pour le maraîchage, on l'a dit, la viticulture, dans certains cas l'arboriculture fruitière. On connaît aussi l'utilisation des animaux pour le débardage ou dans certains cas pour la gestion des poubelles, des choses comme ça. Mais il est évident que c'est un marché qui reste relativement étroit, malgré le frémissement qu'on peut reconnaître vis-à-vis de l'intérêt de l'animal en Europe. Mais enfin, disons, ça, ce n'est pas encore explosif du tout. Alors que, comme vous le savez, la majorité des paysans qui travaillent encore à la main, pas loin d'un milliard sur notre planète, alors qu'environ 500 millions travaillent avec des animaux, et seulement environ 50 millions, même moins, avec des moteurs. Alors, on pense toujours en Europe à ceux qui sont motorisés avec des gros tracteurs et qui produisent des quantités, éventuellement des surplus de céréales importants et autres, de même qu'en Amérique du Nord, bien sûr. Mais ce sont des gens qui sont des très gros consommateurs d'intrants, d'énergie fossile, d'intrants chimiques, et qui ont parfois une production qui, du point de vue énergétique, est assez catastrophique. Tellement on injecte d'énergie fossile, par exemple, dans le système. Au contraire, dans les pays en développement, beaucoup de gens travaillent encore à la main. Et c'est notre cible, ces paysans modestes, parfois relativement pauvres, et qui consacrent un travail très considérable manuel, souvent les femmes d'ailleurs, pour semer à la main, sarcler à la main, entretenir la culture à la main, récolter à la main. Et donc, c'est vis-à-vis de ces paysans beaucoup plus nombreux, comme on vient de le dire, pas loin d'un milliard qui sont encore en manuel, que l'on essaie de mettre au point, à leur demande, bien sûr, des outils qui puissent leur faciliter le travail avec les animaux dont ils disposent. Ça peut être dans les zones très arides, un camélidé, un dromadaire ou un chameau en Asie. Ça peut être à Madagascar des bœufs de trait, puisqu'il y a une très grande tradition de traction bovine sur la grande île malgache. Ça peut être au Sahel, très souvent l'âne, qui est un modeste animal qui pèse souvent environ 150 kilos. Ce n'est pas le format de nos ânes européens, c'est des ânes de petite taille, mais qui peuvent rendre un service considérable en termes de travail du sol si l'outil est bien adapté. Donc le travail qu'a fait Promata, en France d'une part, mais dans certains pays moins avancés aussi en parallèle, c'est d'adapter réellement des outils à l'animal dont dispose le paysan, qui peut être parfois un âne au Sahel, un mulet au Mexique, une paire de bœufs à Madagascar. Donc d'adapter ces outils pour que le paysan puisse les utiliser pour les principales prestations, préparation du sol qu'il a à faire. Et c'est pourquoi on s'appuie complètement sur des partenaires au sud, on a aussi des partenariats au nord bien sûr, mais sur des partenaires au sud avec lesquels on essaie de créer un réseau. Et c'est ainsi, pour prendre l'exemple du Burkina Faso, nous avons dans la banlieue de Ouagadougou, à Camboinsé précisément, un atelier qui est géré par une association burkinabé que l'on appelle Promata Burkina, avec laquelle nous sommes en relation et auprès de laquelle nous faisons, à la demande de cette association, des missions d'appui. Enfin, c'est notre ami Joe Balade qui, en général, va faire ces missions d'appui, parce que Joe Balade est un homme qui est non seulement capable de montrer aux forgerons, former des forgerons pour fabriquer la cassine, mais qui également est capable, sur le terrain, de montrer comment on attelle deux ânes mâles ensemble, ce qui n'était pas du tout traditionnel au Burkina. Les gens disaient « Non, un âne mâle, il ne peut pas travailler avec un autre âne, ça va mal se passer, etc. » Et on leur a fait la démonstration, enfin Joe Balade en l'occurrence, mais moi j'y ai assisté, de faire venir deux étalons, donc deux ânes entiers, mâles, et de les associer pour le travail du sol, avec un harnachement adapté, évidemment. Et au début, il y a quelques petits conflits parce que les ânes sont en compétition, et au bout d'un quart d'heure, voilà, deux ânes tirent, évidemment, deux fois plus efficacement que s'il était seul. Et donc, pour certains travaux du sol, c'est beaucoup plus efficace. Par exemple, le travail à la dent dont je parlais tout à l'heure, le zaï mécanisé, se fait avec deux ânes pour aller suffisamment profond dans le sol. Donc, ces partenaires au sud sont pour nous absolument essentiels. On considère qu'on n'a rien à décider à leur place. On répond à leurs demandes. On s'inspire de leurs acquis, de leur savoir-faire, et on accompagne simplement la conception et la fabrication d'outils plus modernes et plus adaptés à leurs besoins, de telle sorte que l'autonomie du système puisse se mettre en place sans nous. L'idée, c'est d'accompagner la dynamique de fabrication d'outils et d'utilisation d'outils sur le terrain, mais pour rendre évidemment le système autonome et pour qu'ils puissent se passer de notre appui.
En effet, donc, vous avez une équipe dont certains membres sont connus de nous déjà, puisque le président est René Bilaz, un ingénieur agro, qui est l'auteur de « Faire du Sahel un pays de cocagne », que nous avions invité ici. Et puis, comme administrateur, il y a vous-même, et l'animateur paysan en traction animale dont vous venez parler, Joe Balade. Il y a également un autre animateur et un coordinateur.
Exactement. Alors, on a des rôles très complémentaires parce que nous sommes pleins d'admiration pour le savoir-faire de notre ami Jo et d'un autre collègue, André, qui sont des gens et également de professionnels qui sont dans notre réseau, comme ce maraîcher dont je parlais qui est très proche de Montpellier. Il s'appelle Johan Kranz. Il travaille avec des ânes en bio, en production biologique, et c'est quelqu'un qui maîtrise tellement bien la technique, maintenant, depuis plusieurs années qu'il travaille ainsi, qu'il peut être tout à fait... On a un autre collègue qui s'appelle Jérôme Keller, qui travaille dans le Limousin, avec des animaux aussi. Ce sont des gens qui sont dans notre réseau et qui sont tout à fait susceptibles d'aller faire une mission d'appui au Mexique pour Jérôme, ou dans un pays africain pour Johan, si l'occasion se présente. Vous voyez, donc, l'idée, c'est qu'on n'a pas forcément un staff actuellement très consistant, mais on a des profils très complémentaires, sachant que des gens comme René Biaz et moi-même qui sommes tous l'un et l'autre anciens du CIRAD, avec plutôt, disons, une compétence sur le montage des projets, sur les partenariats, etc. On conçoit beaucoup plus notre rôle dans ce montage pour aider les professionnels de Promata à, par exemple, répondre à des appels à propositions, à trouver des partenaires. Nous, comme on est très investis, René et moi, à AVSF, si un projet se monte, par exemple, à Madagascar, sur un gros financement de l'Union européenne, et je parle en connaissance de cause, puisque je viens de faire une mission d'appui au sud de Madagascar sur ce sujet-là, on considère que s'il y a une composante équipement agricole, eh bien, c'est la compétence de Promata qui sera tout à fait indiquée pour aller former au sud de Madagascar, par exemple, des forgerons pour fabriquer les outils, former les paysans à l'utilisation des outils et autres. Parce que ce que j'ai constaté au cours de ma mission récente, c'est qu'au sud de Madagascar, les gens disposent de bovins. Ils ont souvent des charrettes. Ils font beaucoup de transports attelés avec la charrette pour transporter leurs récoltes, leurs céréales, leurs patates douces, enfin tout ce qu'ils peuvent récolter, ainsi que le sable et très souvent l'eau. Parce que c'est une zone très aride et pendant 6 mois, ils ont des problèmes d'eau qui les amène à aller chercher de l'eau dans un marigot à moitié à sec pour l'emmener au village qui est parfois à 10 ou 20 kilomètres. Donc le bœuf assure tous ses services. Mais ce que j'ai constaté avec les collègues malgaches avec lesquels je travaillais, c'est que lorsque les pluies arrivent, les gens ont au mieux une charrue et parfois rien du tout, mais au mieux une charrue. Donc le travail du sol qu'ils peuvent faire, c'est uniquement le travail de début de ce qu'ils appellent la grande saison, c'est l'arrivée des pluies. Un labour initial, mais ce qu'on a vu, c'est que tout le travail qu'il y a à faire pendant les 6 mois de culture, à savoir le sarclage, le butage, l'entretien de la culture, etc., est fait à la main. Donc un très gros travail qui sollicite à nouveau beaucoup les femmes, qui ont par ailleurs beaucoup d'autres choses à faire, puisqu'elles tiennent la maison, elles s'occupent des enfants, etc., et que dans certains cas, on pourrait remplacer très bien par un travail animal à condition d'avoir les outils adaptés, d'autant plus facilement, je dirais, qu'ils ont les bœufs de trait. Vous voyez ? Donc là, on est complètement dans ce type de logique de voir les endroits où, dans des projets de développement durable, la compétence très originale et très réelle de Promata est devenue très rare, malheureusement. Parce qu'à une époque, le CIRAD s'intéressait, par exemple, au matériel de traction animale, dans la tradition d'un organisme français qui s'appelait le CEMAT, qui voulait dire Centre d'études et d'expérimentation du matériel agricole tropical. À l'époque, cet organisme était en relation avec Jean-Nol, bien sûr. Mais disons que les structures se sont modifiées. Ceci n'apparaissait plus du tout à la fin du XXe siècle et au début de ce siècle comme une priorité pour le CIRAD. Et c'est pourquoi des anciens du CIRAD comme René et moi, nous considérons que...
Vous avez rempli ce besoin.
Et bien que la compétence de Promata était essentiel et qu'il fallait absolument essayer de maintenir en vie des associations de cette nature qui font un excellent travail parfois avec de très grandes difficultés matérielles et financières, il ne faut pas le cacher, par justement manque d'appui et manque de financement, et que cette compétence tout à fait originale pourrait être réellement bien utilisée dans des projets qui leur permettraient en même temps de se rémunérer, évidemment.
Alors vous êtes quand même soutenu par des grands organismes comme Oxfam, comme la Confédération Paysanne, le CARI, ici, dans notre région, la Fondation pour un monde pour tous. Donc, vous ne travaillez pas d'une manière isolée.
Tout à fait. Alors, on essaie d'entretenir ces partenariats de gens qui partagent avec nous des valeurs et qui travaillent au sud, souvent dans des directions, j'allais dire, convergentes, même si on n'a pas les mêmes métiers. Et l'idée est justement de se dire que dans leur projet, on peut peut-être apporter une contribution sur une compétence qui n'est pas chez eux.
Voilà, alors on va écouter à nouveau la musique que vous avez apportée.
Alors là, on repart vers le sud de la Grande-Île, on reste à Madagascar avec une musique qui vient de l'ethnie Maafal. C'est une ethnie qui vit sur des hauts plateaux calcaires tout à fait dans le sud de l'île et qui sont exposés à des contraintes beaucoup plus fortes que les précédents, puisqu'ils sont dans des zones relativement arides avec notamment des problèmes d'eau très considérables.
Alors actuellement, quels sont vos projets ?
Alors actuellement, on essaie de maintenir des actions qui sont déjà engagées dans différents pays. Et on peut citer à ce titre des missions récentes d'ailleurs de Joe Balade en Mauritanie, au Burkina Faso, au Mali. Et alors ça, c'est des partenariats qui existent avec des groupements du Sud, où on essaie de renforcer l'action, tout en ayant souvent des problèmes de financement pour les missions et également pour soutenir l'action de nos partenaires au Sud, qui ne sont pas toujours très fortunés, comme vous en doutez.
Alors, si vous faites un appel, où peut-on vous joindre ?
Alors, c'est très simple, Promata sur n'importe quel promata-international.fr, ça c'est l'adresse réelle, promata-international.fr, Promata avec deux M, puisqu'on parle du matériel moderne, mais en tapant Promata sur n'importe quel moteur de recherche, on trouve Promata International. Et évidemment, on a besoin de soutien, parce que Promata International est en quelque sorte un bébé que l'on a porté sur les fonts baptismaux, qui a besoin de se développer. Et on entend le faire notamment à travers des partenariats au sud, je viens de le dire, et au nord. Voilà. Et au nord, on pense que les grands opérateurs de développement rural, on en a cité un certain nombre, le CARI, VSF, etc., sont des gens qui, dans certains cas, dans leurs projets, ont besoin de la compétence de Promata. Donc, ce à quoi nous essayons d'œuvrer, des gens comme René et moi et bien d'autres, c'est à faire connaître cette compétence, la rendre visible dans le domaine du développement rural.
Pour qu'on puisse faire appel
voilà.
à vous.
Voilà, pour qu'ils puissent servir au développement durable dans leur domaine de compétences, qui, je le répète, est très original et réellement très confirmé sur le terrain. C'est pourquoi nous y croyons fermement, mais on voudrait que l'enfant puisse se développer.
Eh bien, merci Philippe. Alors, je passe tout de suite au calendrier. Eh bien, dès ce soir, je vous invite à aller au cinéma Diagonale à 20h. Pour la projection des films « Migration » de Sylvaine Génie et « Dans l'attente » de Sarah Limorté, ce sont des étudiants en M2 de coopération internationale qui organisent cette projection débat solidaire sur le thème de l'accueil des demandeurs d'asile en France. Les fonds collectés avec les entrées seront reversés à l'association Utopia 56 pour aider les demandeurs d'asile à Calais et Paris. Donc, leur projet s'appelle « Sur la route des Cévennes », je crois. Voilà. Sur la route jusqu'aux Cévennes, le long chemin de l'exil. Également, jeudi 24 janvier, à 20h, mais cette fois-ci au cinéma Utopia, c'est la projection du film 8 Avenue Lénine, qui est réalisé par Anne Pitoun et Valérie Mito. La projection sera suivie d'un débat, puis d'un cocktail, organisé par l'équipe CIMAT 34, mission Bidonville. Dans le cadre de sa mission, l'équipe de la CIMAD a souhaité diffuser ce film pour permettre une meilleure compréhension de la situation des migrants vivant en bidonville et squat. C'est l'histoire d'ailleurs d'une Rome roumaine qui est venue en France en 2002. Cette projection est aussi l'occasion de donner la parole aux habitants des bidonvilles montpelliérains afin d'échanger sur leurs propres expériences. Donc jeudi 24 janvier à 20h au cinéma Utopia. Je rappelle aussi que du jeudi 31 janvier au vendredi 1er février aura lieu à Amiens dans les locaux de Canop le Forum national de l'éducation au développement durable sur le thème « Nourrir l'humanité, un défi global ». On peut s'y inscrire avant le 15 janvier, donc c'est maintenant le dernier délai, au 03 22 71 41 70 ou bien sur canop.communication@ac-amiens.fr. Dimanche 20 janvier à Gignac a lieu la fête de la Saint-Vincent, patron des vignerons. Espoir pour un enfant s'associe à cette fête. Vous pouvez réserver un repas en mairie au 04 67 46 64 64. Enfin, il y a aussi le dimanche 27 janvier à 14h à Montpellier, la marche pour le climat qui va se dérouler dans toute l'Europe et dans les villes principales de notre France. Le départ a lieu au Pérou, donc à 14h. La manifestation se déroulera jusqu'à la place Salingro. À l'appel de Il est encore temps et de nombreuses associations de Oxfam Alternativa. Vous pouvez trouver tous les renseignements sur https://ilestencoretemps.fr. Jeudi 17 janvier, pourquoi et comment résister à la pub à 20h30 à l'alimentation théâtrale 9 rue Saint-Antoine. Tram 3, arrêt Plan Cabane. C'est animé par Khaled Djelli, porte-parole de l'association Résistance à l'agression publicitaire. Et c'est organisé par les désobéissants ANV COP21, High Boycott et Nouveau Monde. Lundi 21 janvier, et du 21 au 25 janvier, a lieu la semaine État du monde et perspectives, et la première manifestation a lieu le lundi 21 janvier de 18h30 à 21h30 à la Fac de sciences de Montpellier, place Eugène Bataillon, amphi du Monté, bâtiment 7. C'est une conférence de Pablo Servigne, agronome, docteur en sciences de l'Université de Bruxelles, en dialogue avec Edgar Morin du CNRS, président de l'Agence européenne pour la culture, UNESCO. Le thème, c'est « Vers un effondrement de notre civilisation ?» point d'interrogation. C'est aussi organisé par le Nouveau Monde Montpellier. Vous pouvez trouver les renseignements sur nouveaumonde34@free.fr. À bientôt, chers auditeurs.